Bonjour Alexandre Roubaud.
Salut Valentin.
Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour parler d'une thématique qui touche beaucoup de Français, particulièrement en ce moment, qui touche à l'épargne. On va voir un petit peu comment votre solution propose de l'épargne indolore avec du Bitcoin, bien évidemment, puisqu'on en parle chez Cryptost, puisque globalement, ta solution Bitstack, qui vient d'ailleurs de lever, qui vient de faire un tour de table d'1 million d'euros, félicitations, on en parlera dans quelques minutes, propose d'arrondir à l'euro supérieur lorsque vous faites des dépenses pour staker un petit peu en Bitcoin. C'est un dollar, c'est assez passif pour le coup, et c'est important de lisser, surtout en ce moment, les points d'entrée de Bitcoin et surtout d'achat. Merci beaucoup de nous rejoindre, Alexandre. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi, nous dire quelques mots aussi sur Bitstack, et puis après, on échangera ensemble sur la thématique de l'épargne, parce que c'est une thématique très importante, encore une fois, avec une inflation importante aujourd'hui, qui intéresse beaucoup de gens, qui concerne beaucoup de gens, et quand elle est combinée à Bitcoin, qui apporte beaucoup d'aspects positifs.
Eh bien, merci à toi Valentin. Un petit mot sur moi. Donc, moi c'est Alexandre Roubaud, je suis cofondateur et CEO de Bitstack. On est deux associés sur le projet, donc petit clin d'œil à mon associé cofondateur et CTO Kabir qui m'a rejoint dans l'aventure. Pour la petite peut-être introduction qui sera pertinente pour l'audience, je reviens du Canada. Donc 7 longues années au Canada, à l'université McGill. Ensuite j'ai bossé là-bas. J'ai notamment dirigé le développement produit d'une boîte qui faisait de l'épargne par arrondi. Donc, il y en a qui vont pouvoir tirer un peu des liens avec Bitstack. Donc, le sujet de l'épargne, c'est un sujet que je connais bien. Tout ce qui est cadre réglementaire au Canada et en France, puisque Moka était une solution qu'on avait. Donc, cette boîte s'appelait Moka, qu'on avait lancée au Canada, qu'on avait lancée aussi en France. Et ensuite, fin d'année 2020, pour garder ça court, on a lancé Bitstack avec Kabir pour continuer en fait cette mission que moi j'avais lancée. Dans cette société qui était celle de l'épargne pour les jeunes et d'aider les jeunes à épargner de manière indolore, justement, notamment avec ce concept de l'arrondi, mais de rapporter au sujet de l'épargne la proposition de valeur de Bitcoin, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, mais principalement avec sa rareté ultime, les 21 millions de Bitcoin, le contexte macro, et donc une fois qu'on se met à épargner, la question vient, qu'est-ce qu'on fait de son épargne, et donc de rapporter en fait ce qui est pour nous la deuxième moitié de l'équation, l'épargne en Bitcoin.
Et l'épargne des Français, on l'a vu dans de nombreux sujets et études, a explosé depuis la crise sanitaire. Elle est aujourd'hui à des niveaux assez importants, si ce n'est presque inégalés chez certaines classes sociales. C'est super important l'épargne, on le sait. Mais globalement, avec une inflation comme on a aujourd'hui sur l'année lycée, entre 5 et 8 %, ça peut être une mauvaise idée si elle est mal placée, et encore plus si elle n'est pas du tout placée. L'épargne indolore, est-ce que tu peux juste nous repréciser ce que c'est? Parce que c'est vrai que ce n'est pas une solution qu'on connaît forcément beaucoup. Soit on fait l'effort de se renseigner, de placer sur différents livrets, on verra l'impact que chacun a. Mais si on n'a pas cet effort-là ou cette envie de se prendre la tête, l'épargne indolore, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans le fonctionnement des Français.
Ouais, carrément, et ça me fait rebondir sur. Pour moi, l'épargne indolore, comment j'aime bien le voir, c'est qu'est-ce que les gens aiment faire? Les gens aiment dépenser. C'est comme ça. Donc, si on arrive à faire épargner les gens quand ils dépensent, pour moi, c'est ça l'épargne indolore. Enfin, en tout cas, c'est une méthodologie d'épargne indolore. Peut-être pour récapituler du coup ce que Bitstack fait et comment Bitstack essaie d'utiliser cette méthodologie d'épargne. Sur Bitstack, on connecte son compte en banque à l'application, et du coup, sur chaque transaction bancaire qui est réalisée sur ce compte bancaire-là, Bitstack va arrondir toutes ses dépenses à l'euro supérieur, prendre là, ce qu'on appelle la petite monnaie, hein, c'est un peu comme si on allait mettre les pièces jaunes dans la cagnotte, là, qui sont ramenées sur Bitstack, qui sont accumulées, et une fois par semaine, Bitstack va prélever le total des arrondis de la semaine pour venir épargner et convertir cette somme-là en Bitcoin. Pourquoi c'est important? Parce que effectivement, comme tu l'as rappelé, il y a un contexte macro qui évolue, qui est un petit peu particulier en ce moment. Donc, nous, on avait pour mission deux choses. La première, c'était de continuer à aider principalement les jeunes, mais finalement, on en parlera, plus ou moins tout type de milieu social, tout type de profession. Enfin, ça touche tout le monde, le sujet de l'épargne. Donc, les aider à mettre de l'argent de côté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est plutôt les objectifs de vie que les gens veulent financer, hein, que ce soit se construire un patrimoine, préparer sa retraite, préparer l'avenir de ses enfants, préparer un projet immobilier. Donc les gens épargnent pour tout type de raisons, et donc on voulait les aider à atteindre ces objectifs de la meilleure manière possible. Et donc une fois qu'on épargne, il y a une deuxième partie de l'équation, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette épargne? Et pour nous, c'était important, notamment vis-à-vis du contexte macro, de se dire, aujourd'hui, on a une inflation qui est plus trop sous contrôle. qui est bon, plusieurs raisons, mais principalement, d'après nous, la suite d'une politique monétaire qui a été mal appliquée, qui est potentiellement aussi défectueuse par défaut, par définition. Et donc, Bitcoin apporte, comme on aime bien dire, une certaine certitude dans l'incertitude, puisque la politique monétaire prédéfinie, quantité limitée fixe à 21 millions, ta part du gâteau reste tout le temps la même, comme on dit. Tu as un Bitcoin sur 21 millions, ça ne changera pas. Et ça plaît aux gens. Il y a une réelle proposition de valeur derrière pour se protéger. Donc voilà, c'est un peu ces deux mondes-là qu'on a voulu combiner.
Et ça plaît aux gens et ça plaît aussi aux investisseurs, parce que vous venez de boucler une table ronde d'un million d'euros. Pour faire quoi avec Bitstack?
Ça, un million d'euros qu'on vient d'annoncer il y a à peine quelques jours. Pour peut-être faire un petit récapitulatif, on a voulu aller faire deux choses. La première, c'était effectivement sur le tour de table de s'entourer de personnes qui connaissent le sujet de l'épargne, qui connaissent le sujet des technologies financières en règle générale, qui connaissent un peu tout ce qui est consumer product, donc tout ce qui est produit pour particuliers. Donc, on est allé chercher, c'est un tour de table qui est lead, comme on dit, par Founders Future, qui est complété par deux autres fonds, mais principalement aussi une belle brochette, comme j'aime bien dire, de business angels hyper complémentaires et stratégiques. On a notamment Alexandre Stachenko et Claire Balvat de Blockchain Partner de KPMG, qu'on a l'occasion de voir souvent, qui connaissent très bien le sujet qu'on attaque. On a Owen Simonin, que je pense beaucoup de l'audience vont connaître aussi sous le nom de Hacher, etc., qui vont nous permettre d'aller à l'étape supérieure et pour nous de vraiment en fait, appliquer cette mission qui est de démocratiser l'épargne en Bitcoin à tous les Français en premier lieu, mais à toute l'Europe, sur toute l'Europe. Donc, c'est vraiment ça que les 1 million d'euros vont nous permettre de faire. C'est à la fois compléter notre équipe pour monter en puissance et deuxièmement, de pouvoir démocratiser l'épargne via Bitstack en France et en Europe.
Sur ce choix justement d'avoir, on l'a compris, rajouter Bitcoin sur cette structure d'épargne, tu nous disais que tu avais un antécédent lié à l'épargne 1$. Mais ta vision sur Bitcoin, elle date de quand et pourquoi elle t'a poussé à combiner justement cette vision que tu avais déjà dans ton entreprise d'avant et cette volonté de Bitcoin de préserver le capital? C'est comme ça que beaucoup le voient aujourd'hui et comment tu as combiné les deux?
C'est ça, moi Bitcoin, j'ai entendu parler de Bitcoin en 2016. J'étais étudiant, donc j'étais au Canada, j'étais étudiant à l'université de McGill en école de commerce. J'ai eu l'avantage ou la chance, on peut dire ça comme ça, en fait, à Montréal, d'être dans une communauté Bitcoin qui est assez cool, parce qu'à Montréal, il y a eu pas mal de meet-ups qui sont lancés là-bas. Il y avait une belle communauté de développeurs qui travaillaient sur Bitcoin notamment, ou en tout cas qui se battaient pour préserver les valeurs de Bitcoin. Donc, j'ai eu la chance en fait de les croiser et d'être imprégné de leur discours sur Bitcoin. Donc, je suis tombé dedans, je suis rapidement commencé à étudier Bitcoin, à comprendre un peu l'enjeu global. Après, bon, comme tout le monde, on commence un petit peu et après, on tombe dedans de plus en plus.
Tu as été redpilé.
J'ai été redpilé, exactement. Et donc, j'ai commencé à faire mon chemin, pour faire bref, mais sans vraiment en fait, comprendre vraiment l'ampleur de ce que Bitcoin allait être. Et c'est réellement post mes études que j'ai rejoint donc, pour diriger le développement produit d'une fintech qui est devenue une des applications les plus courantes pour de l'épargne, qui était placée sur des actions et des obligations. Donc, on tombe du coup à l'inverse sur un marché très classique, très traditionnel. On voit l'impact que l'épargne a chez les jeunes et chez les moins jeunes et les placements et les rendements sur ce type de placement-là. Et c'est là que ça a percuté parce que sur le côté, moi, je continue à creuser Bitcoin et je me suis dit, mais attends, on fait épargner des gens. La partie méthodologie d'épargne marche extrêmement bien, c'est-à-dire il faut que les gens épargnent, c'est un peu pour moi le début de la finance personnelle, c'est-à-dire l'épargne c'est le point d'entrée, c'est grâce à l'épargne qu'on fait plein de choses dans sa vie, mais une fois qu'on a de l'épargne et qu'on accumule un peu un certain genre de patrimoine, quoi, il faut se dire comment je le préserve, et avec un contexte 2019, 2020, 2021, ça a percuté qu'en fait on résolvait que la première moitié de l'équation. Et que du coup, il fallait se poser des questions sur est-ce que la classe d'actifs sous-jacente finalement était la bonne ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un problème dans ces différents actifs aujourd'hui qu'on offre, que ce soit des actions, des obligations ou autres même ? Donc, le Bitcoin a pris sa place et c'est là que ça a tilté en mode OK, on fait épargner les gens, mais en fait, il faut aussi détenir du Bitcoin. Donc, pourquoi on ne créerait pas Bitstack, quoi ?
Et on verra un petit peu aussi ensemble dans quelques minutes qui est-ce qui utilise vos services ? et dans quelles conditions. Et c'est des choses très intéressantes de voir si c'est plutôt les jeunes ou plutôt des personnes âgées, parce que c'est des typographies qui sont super intéressantes. Cette ouais. vision, en fait, qui prend le contre-pied. Comme en fait, tu as eu la même vision que Satoshi Nakamoto en rajoutant le côté épargne $1 en plus, parce que tu dis c'est depuis l'impression monétaire outrance que Satoshi Nakamoto, d'une certaine manière, avait identifié déjà en 2008 et sur lequel il avait créé Bitcoin. Et toi, tu rajoutes là-dessus l'épargne $1, c'est donc deux choses super importantes. Est-ce que sur l'inflation qu'on a eue ces dernières années et qui est palpable aujourd'hui, en tout cas les conséquences de cette inflation, on peut revoir un petit peu ensemble les autres placements, comment ils ont pu subir, en fait comment on perd une épargne mal placée ces dernières années au vu de ce qui se passe en termes d'inflation aujourd'hui justement.
Ouais, je pense qu'il y a un point de départ qui est intéressant et c'est notamment une des choses qui a percuté pour moi quand je suis rentré en France. C'est déjà, il faut comprendre que dans le monde, l'épargne, elle n'est pas la même pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est qu'il y a des différences socio-culturelles importantes, par exemple entre l'épargne des Français et des Européens versus l'épargne nord-américaine. Pourquoi ? Parce qu'on est sur deux systèmes d'épargne complètement différents. C'est-à-dire qu'il y a le système d'épargne par capitalisation, c'est le système nord-américain, c'est-à-dire on contribue pour sa retraite, en gros. Donc, si on ne met pas de l'argent de côté, qu'on ne l'investit pas, qu'on ne se crée pas un patrimoine, il n'y a pas grand-chose derrière, versus notamment et particulièrement en France, l'épargne par répartition, c'est-à-dire on contribue tous et on a une retraite garantie. C'est la promesse du système qu'on a aujourd'hui.
Tu fais des guillemets avec tes doigts pour ceux qui nous écoutent sur les podcasts Spotify et autres, ouais, effectivement, parce que c'est une inquiétude que les jeunes ont de plus en plus.
Et c'est ça, là où je voulais en venir, tu fais bien de le préciser, c'est vrai que pas tout le monde nous voit. Je faisais des guillemets parce que je pense qu'on arrive à un point dans le temps où on se pose de plus en plus de questions, on voit, et comme Satoshi Nakamoto le dit lui-même, je sais plus si c'est dans un forum ou autre, que la confiance qu'on a mis dans le système, tout repose sur la confiance qu'on en a mis dans le système, et cette confiance, elle a été défectueuse tellement de fois, on ne l'a pas eu à plein de moments dans l'histoire. Et donc les jeunes, je pense, parce qu'on est un peu à un moment un peu qui va complètement switcher, où notre retraite, elle sera pas forcément garantie. Et pourtant, on est sur un système qui continue à fonctionner comme ça. Donc pour nous, chez Bitstack, c'était de se dire, OK, Bitcoin a déjà ses propriétés uniques qui sont super intéressantes. Bitcoin doit prendre sa place au sein de l'épargne des Français. Mais ce que nous, on résout avec Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est déjà très bien comme c'est plutôt comment on accède à Bitcoin, c'est comment on vient positionner Bitcoin au sein de l'épargne des Français. C'est un peu le pont, si tu veux, entre ce que les Français font déjà, leur quotidien, le quotidien des Français et Bitcoin. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est OK, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui épargnent. Et pour faire le tour, c'est quoi en France? C'est 82% de livret A pour les 18-35 ans. Le livret A qui, pour rappel, rapporte 0,5%, qui récemment a été augmenté à 1%. Waouh, on est super content avec une inflation qui est, par, à mon avis, au moins x5. Mais bon, chacun a sa perception là-dessus. En France, mais même si on disait aller en Amérique du Nord, il y en a, ils investissent en bourse sur des actions, des obligations. Les obligations rapportent plus rien puisque même si les taux d'intérêt montent, ce qu'on appelle le real yield, qui est ce que rapporte le rendement de l'obligation, mais si on enlève l'inflation, l'inflation elle est tellement supérieure que finalement son argent sur les obligations, il brûle, on le perd. Donc c'est un peu le glaçon qui fond que Michael Saylor parle tout le temps. Pareil pour le cash, c'est évident, on va dire. Et puis les actions qui, on peut le voir, ont une volatilité extrême en ce moment, notamment parce que la Fed annonce différentes choses, les taux d'intérêt qui montent, taux d'intérêt qui descendaient, les actions montent, les taux d'intérêt qui remontent, les actions qui descendent. Puis sur toutes les actions, il faut savoir qu'elles ont un premium, ce qu'on appelle un premium monétaire, puisque finalement, comme les gens cherchaient constamment à contrer cette inflation croissante, énormément de capital était alloué aux actions. Et finalement, si tu veux, ça ne justifiait plus. C'est pas comme si les boîtes faisaient 20% de profit tous les ans en plus. Pourtant, l'action prenait 20%. C'est très décorrélé. Donc, on arrive à un moment, peut-être pour conclure ce point-là, où les gens se posent des questions, se disent « Ok, le livret A, mon glaçon, ils font, mon argent fond. Finalement, en France, de toute façon, on ne fait pas grand-chose d'autre que le livret A, donc ça s'arrête là pour les Français. Et donc, nous, chez Bitstack, on s'est dit « Ok, comment les gens, maintenant, entendent parler du Bitcoin, comment on leur fait faire le premier pas ?» Et c'est ça qui est clé pour nous. C'était de dire « Aujourd'hui, il y a peut-être 8%, allez, 10%, s'il y a les études qui sortent, il y a celle de l'ADAN, notamment récemment. » On dit 8% des Français détiennent des crypto-monnaies, c'est top, mais on parle quand même encore d'une minorité. Pourtant, il y en a 37%, et nous, on pense plus, qui veulent faire le premier pas. Et on s'est dit, mais comment on fait, on accélère ça? Comment est-ce qu'on fait que ces 37% de Français, demain, se mettent à épargner en Bitcoin comme ils épargnent dans le livret A? Et donc, nous, ça avait trois choses clés. C'était comment rendre l'épargne ludique. Donc, on parle de l'épargne un peu avec je dépense, je sais que j'ai des bitcoins qui s'accumulent en parallèle, accessible à tous, notamment sur une simplicité d'utilisation, et indolore, parce que finalement, l'épargne, c'est, excusez-moi le mot, c'est un peu chiant, quoi. C'est-à-dire, qui a envie de, enfin, c'est dur, il faut se dire, j'ai envie de mettre de côté. La plupart des gens attendent la fin de mois parce que on a plein de dépenses, et à la fin du mois, on se dit, ce qui me restera, je l'épargnerai, mais finalement, il ne reste plus jamais grand-chose, parce que bon, il faut financer plein de choses, c'est normal. Donc, c'était ça, de rendre l'épargne en Bitcoin accessible, simple, ludique, indolore. Et c'est ça qu'on a construit sur l'application. Et c'est ça qui plaît, puisque aujourd'hui, on arrive à convaincre ces 37% de se dire, avec Bitstack, je fais le premier pas. Je me mets à acquérir mes premiers Bitcoins. Donc, c'est ça qui est important.
Parce qu'effectivement, on peut se dire que mettre quelques centimes par-ci, par-là, ça peut servir à rien, mais bout à bout, pendant les années, ça commence à faire un paquet de Satoshi. Donc, c'est une vision très intéressante. Sur effectivement le sondage Adan et KPMG, que d'ailleurs, on a cofinancé avec Cryptos sur ces fameux 8%, on compare aussi ces chiffres-là à 4% des Français qui détiennent des actions en compte propre. Donc, on voit bien qu'en compte propre, c'est deux fois plus. Mais on ne peut pas avoir facilement des produits qui nous exposent à Bitcoin, si ce n'est en l'achetant ou en passant par vos solutions. Les assurances vie, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé? Parce qu'effectivement, là, tu citais des choses qui sont en dessous de l'inflation, qui détruisent l'épargne, encore une fois. Alors, je pense que ça sera excessif de dire que en 50 ans, en 10 ans, on perd la moitié de ses économies au vu de l'inflation actuelle, parce que j'espère qu'elle ne durera pas, mais par contre, elle s'érode, ça c'est certain. Par rapport justement aux produits d'assurance-vie, est-ce qu'on peut faire un petit topo de là où on en est par rapport à des solutions comme Bitcoin sur les 10 dernières années, puisque Bitcoin existe depuis un peu plus de 10 ans?
Oui, carrément. Et pour rappel, si je ne me trompe pas dans mes chiffres, on avait écrit un article de blog sur Bitstack, mais je crois que c'est plus de 200 milliards d'épargne pour les Français en 2020. Enfin, c'était suite au Covid, on a doublé depuis 2019. Mais ce qui était intéressant, c'est que je m'étais plongé un peu sur le sujet. J'avais regardé, OK, où est-ce qu'elle va cette épargne? On parle du livret A, mais bon, il y a aussi d'autres produits, comme tu l'as dit. Mais c'est quand même plus de 60% de l'épargne qui va sur presque ce qu'on appelle des dépôts bancaires. En fait, on parle de compte chèque, compte épargne. Dans le compte épargne, même si on dit PEL, PEA et autres, on est sur principalement des comptes à intérêt faible. L'assurance vie, c'est un peu différent. On peut y mettre différents types de produits dedans. Enfin, il y a plein de véhicules. Parfois, on confond produits financiers et véhicules d'investissement, parce qu'il y a pas mal de véhicules, on peut choisir ce qu'on met dedans. Mais en tout cas, il y a plus de 60% de l'épargne. Donc, on va dire 100 et quelques milliards qui est directement le glaçon qui fond, quoi. C'est directement, c'est placé, l'intérêt est faible. Et donc, on est soumis à l'inflation. Enfin, on est victime, entre guillemets, si on peut dire ça, de l'inflation. Bitstack, comment ça compare avec le Bitcoin? Nous, on s'est amusé à faire un simulateur sur notre site. Et de dire, si vous utilisez Bitstack et que vous mettez le montant de votre choix, 10 euros, 5 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, sur toutes les semaines, tous les mois ou tous les jours, pendant 3, 5, 10 ans, qu'est-ce que ça donne? Et c'est là qu'on peut réellement voir l'impact, pas seulement du Bitcoin, mais de l'achat récurrent et du lissage du risque avec différents points d'entrée, puisqu'on vient mettre de l'argent toutes les semaines, sur un actif comme Bitcoin. Et là, on voit réellement une valorisation de son épargne. Et c'est ça qui est intéressant.
Et ça, c'est super important ce que tu précises, c'est le fameux DCA, Dollar Cost Average. J'ai sorti peut-être le terme une ou deux fois, c'est des choses qui ne sont pas toujours assimilées et surtout la puissance du DCA n'est pas toujours accumulée. Et c'est aussi indolore de faire du DCA avec votre solution. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la force du DCA sur du Bitcoin?
En plus, je pense que le contexte actuel pour ceux qui ont suivi est propice à expliquer l'importance du DCA. Le Bitcoin, faut pas se le cacher, c'est un actif qui est quand même relativement volatile à court terme. Ce qui est intéressant avec Bitcoin, et on revient sur les fondamentaux de Bitcoin, c'est que c'est… ce qui est intéressant, c'est que c'est un actif qui a une quantité fixe limitée à 21 millions. Il y a des fondamentaux sur le fait que l'adoption du Bitcoin est en constante croissance. On parle souvent d'ailleurs de la croissance du Bitcoin comme l'adoption d'Internet à l'époque. Peu importe, ce qui est important, c'est que les fondamentaux sont super solides. Après, il y a plein de facteurs externes qui font que c'est hyper volatile. Mais donc, la question qu'il faut que tout le monde se pose, c'est comment je m'y expose de manière responsable. Et c'est là que le DCA est hyper important, puisque le DCA va se dire sur une vision à 3, 4, 5 ans. Et pour rappel, petite parenthèse, les Français, quand on parle de l'épargne, c'est le mot épargne, on n'est jamais sur de l'épargne court terme. Quand on parle de différents objectifs de vie, je les ai rappelés, le numéro un en France, c'est autre, se construire un patrimoine, c'est un projet immobilier. Les gens épargnent pour à peu près plus de 4 ans, surtout les jeunes. Ils se disent, ben voilà, je vais épargner pour mon premier appartement ou mon premier projet immobilier. Là, sur 4 ans, quand on a cette vision-là, ben, j'invite tout le monde à regarder qu'est-ce qui se passe si je faisais du DCA sur Bitcoin toutes les semaines pendant 4 ans avec 10 euros, 25 euros même de regarder ça. Ben là, on a vraiment un lissage du risque. Et la volatilité à court terme, elle devient presque, enfin, elle est absorbée. Et donc, sur un portefeuille, ça fait moins peur puisqu'on se dit, ben voilà, j'ai 25 euros qui achètent toutes les semaines, je ne regarde plus et finalement, je fais un check tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Et à la fin de 4 ans, on est bien content de la belle surprise puisque les fondamentaux de Bitcoin n'ont pas changé. De plus en plus de gens dans le monde entier découvrent Bitcoin, achètent du Bitcoin parce que ça leur apporte une proposition de valeur qui est d'ailleurs différente pour plein de personnes. Mais au final, Bitcoin est toujours là, quoi. Donc ça, c'est important pour le DCA que tout le monde comprenne l'importance, pourquoi c'est important de le faire pour épargner de manière responsable et pas faire un one-shot 1000 euros. Et après, bah là, si on l'avait fait il y a 3 semaines, par exemple, bah on serait un peu déçu, quoi. On dirait qu'on a perdu un peu d'argent.
Effectivement, parce que la tempête souffle actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Mais quand on a une stratégie, quand en plus, cette stratégie, on n'a pas besoin de s'en occuper et qu'elle est passive, c'est et ça. Encore une fois, un dollar, c'est le terme clé, je pense, de la solution, eh bien, effectivement, ça sort du spectre les risques de mettre en one shot en se disant peut-être que demain, il aura baissé de moitié.
Je rajoute un truc, Valentin, parce que juste tu dis comment on rattache l'indolore. Ce qui est intéressant, c'était justement, j'allais dire, comment rattacher l'indolore au dessin. Et en fait, l'arrondi, c'est peut-être pas évident, mais l'arrondi est une solution de DCA. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois indolore parce qu'on épargne en même temps qu'on dépense, mais c'est à la fois du DCA parce que l'arrondi, c'est des achats récurrents à chaque fois qu'on dépense. Donc, c'est ça qui est fort et que les gens aiment dans ce type de solution-là, c'est se dire, bah, à la fois, j'ai ce côté, j'y pense pas, c'est-à-dire que la solution s'occupe, enfin, l'app le fait pour toi. Quand je dépense, je sais qu'à la fois, je dépense, à la fois, je mets des sous de côté, mais à la fois, je le fais de manière responsable. Sur le point d'entrée du Bitcoin et je m'expose à la performance moyen long terme de l'actif qui est haussière sur les 10 dernières années, quoi. Donc ça, c'est, je pense que c'était ça le point clé, c'est comment rattacher l'indolore au DCA.
Exactement. Et justement, si on doit dresser un petit peu avec votre solution le portrait robot d'un utilisateur ou en tout cas du nombre de dépôts, parce qu'on le verra en toute fin d'échange, vous avez plusieurs autres possibilités, on n'est pas obligé de passer uniquement par cette possibilité 1$, mais le portrait robot, ça serait quoi ?
Écoute, alors il y a ce qu'on pensait être le portrait robot et il y a ce qu'on voit et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, le dénominateur commun de tous nos utilisateurs, et c'est ça qui nous anime en fait finalement chez Bitstack, c'est qu'on a réussi à convaincre des gens qui achètent du Bitcoin pour la première fois. Et combiné à mon deuxième point qui est, ok, ben c'est qui ces gens qui achètent du Bitcoin la première fois ? Ben en fait, c'est juste ça le dénominateur commun parce qu'à l'inverse, on retrouve tout type de personnes. Donc, sans rentrer dans les détails, mais on a des utilisateurs qui vont, bon, conformément à l'âge légal, 18 ans, c'est un peu le minimum, mais on a des utilisateurs qui vont jusqu'à 60 ans et plus. Et nous, c'est cool de voir que ça soit... en fait, on voit, en parlant à nos utilisateurs, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont réussi à convaincre leurs parents, leurs cousins, leurs grands-parents à s'y mettre, parce qu'en fait, tout le monde a entendu parler du Bitcoin, tout le monde a eu cette envie, et avec le contexte macro, comme on disait tout à l'heure, les gens se posent des questions et se disent « Ok, pourquoi pas, je pense que la proposition de valeur de Bitcoin, elle est intéressante ». Mais faire le premier pas, c'est compliqué, quoi. Il faut que j'aille ouvrir un compte sur une plateforme, il faut que je fasse un virement, il faut qu'après je décide de quelle crypto-monnaie j'achète, à quel moment. Voilà, il y a plein de types de barrières que nous, on a identifiées. Et on s'est dit, ben voilà, comment on les enlève toutes. Et en fait, ça parle à tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. On dit, ben, c'est qui notre typologie type ? À notre surprise, la typologie type, c'est le dénominateur commun. C'est tout le monde fait son premier achat avec Bitstack. Mais du coup, on est en mesure d'accompagner ces gens-là. Mais du coup, on retrouve des gens avec différents âges, différentes professions. On retrouve tous les secteurs qu'on peut retrouver en France, on les retrouve chez Bitstack, différents milieux sociaux, et on retrouve tout ça. Donc vraiment, c'est le dénominateur commun qui nous anime, c'est comment on onboard des gens qui n'auraient pas accédé au Bitcoin avant, quoi.
Mais sur les sondages ou sur les plateformes, on voit que tout ce qui vont être trading ou autre, c'est davantage évidemment les jeunes qui sont concernés. Vous avez un spectre beaucoup plus large parce qu'on n'est pas là aussi sur cette gestion active.
Ouais, c'est ça. Bitstack, il n'y a aucune connaissance d'investissement requise, quoi. Pour rappeler, tu télécharges. Si on devait mapper les différentes étapes pour accéder à Bitstack, c'est tu télécharges l'app, tu crées un compte. Tu vérifies ton identité conformément à la réglementation européenne, et, enfin française et bientôt européenne, et tu connectes ton compte en banque. Et c'est plus ou moins tout. À chaque fois, je m'arrête là un peu moi-même surpris, puisqu'en fait, il n'y a plus rien d'autre à faire. Une fois que tu as connecté ton compte en banque, tu sais, je fais le convaincu moi-même, mais une fois que tu connectes ton compte en banque, en fait, tu n'as réellement plus rien à faire. Tu actives l'arrondi, quoi. Tu actives l'arrondi et après, tu vas vivre ta vie comme nous on dit. Tu vas dépenser, tu fais tes courses, tu vas acheter ton croissant, ton café, et après, tu check l'app. Tu as ta petite notification qui tombe. Et qui dit, ben voilà, tu as épargné tant de Bitcoin pour tant d'euros. Et ça c'est assez fort, on trouve. Et enfin, les retours des utilisateurs sont assez positifs parce que ils nous disent tous, ben ouais, en fait, je l'active et je fais autre chose, quoi. Tu vois, c'est un peu en anglais, on dit le set it and forget it. C'est je le mets en place et j'oublie, quoi. Et ça, c'est ce qui plaît.
Et justement, dans cette solution, on peut aussi rajouter chaque mois une portion en vrai DCA, entre guillemets, de quelques dizaines, centaines d'euros supplémentaires, si on veut accompagner cette épargne 1$ que vous faites en plus.
C'est ça. En fait, on y a trois fonctionnalités clés, si on peut dire ça comme ça. Mais pourquoi c'est, enfin, la partie intéressante, c'est pourquoi l'arrondi, pour nous, c'est le point d'entrée. C'est-à-dire, encore une fois, comment est-ce qu'on arrive à convaincre des gens pour qui ça aurait pu paraître compliqué, l'arrondi. En fait, on n'a même pas besoin de déterminer le montant d'achat. C'est un peu si on devait creuser le truc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a vraiment plus de questions à se poser. Mais pour ceux qui ont une capacité d'épargne plus importante, parce que l'arrondi, pour rappel, ça c'est intéressant, on a fait une petite allusion, tu disais tout à l'heure, c'est impactant. On a les chiffres, enfin, du coup, moi je les avais de mon expérience précédente et on les a chez Bitsac. L'arrondi, c'est quand même entre 10 et 15 euros par semaine. Donc, c'est pas rien, ça fait 40 à 60 euros par mois. Ça fait à peu près 600, si je ne me dis pas de bêtises, ça fait 600 et quelques euros par an. Mettez ça, du coup, dans le simulateur, mettez 10-15 euros par semaine pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, et on voit ce que ça donne. Mais du coup, effectivement, pour rappeler, ceux qui veulent qu'on capacité d'épargne plus importante que 10-15 euros par semaine, du coup, on va dire, peuvent se dire, bah, moi, je vais aller 100 euros par mois. Tu vois, j'ai 100 euros de budget, je mets 100 euros par mois en plus. Donc, ils peuvent faire de l'achat récurrent classique, c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et on peut faire de l'achat ponctuel, puisque parfois on a envie, voilà, on a une capacité d'épargne qui vient de se débloquer, ou là on a envie d'acheter du Bitcoin pour plusieurs raisons. On peut faire de l'achat instantané ou ponctuel par carte en disant, ben là je vais acheter 100 euros de Bitcoin. Voilà. Et après, bon, je le rappelle du coup, parce que là on parle un peu des fonctionnalités, du coup je le dis, parce que c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, et surtout sur cette typologie de clients, et c'était super important pour nous que l'épargne soit accessible à tout moment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'on a la possibilité de vendre une partie ou la totalité de son épargne, qui est donc en Bitcoin, pour récupérer des euros sur son compte bancaire. Donc, on vend les Bitcoins, on récupère des euros, on les renvoie sur le compte bancaire du client. Ou on peut retirer ces Bitcoins. Ça, c'était très important pour nous. Surtout pour moi, en fait, quand je construis l'extension, un peu aussi pour moi, même si je ne me considère pas forcément novice. Mais moi, je voulais une solution d'épargne un peu en continu aussi pour alimenter mon compte. Mais de pouvoir retirer ses bitcoins, c'était hyper important. Donc, tu peux retirer tes bitcoins si tu veux les sécuriser toi-même. Donc, c'est-à-dire celui qui veut littéralement rien avoir à gérer, il les laisse. Celui qui veut sécuriser soi-même ses bitcoins, il peut les retirer depuis l'application.
Donc, en langage financier, ce n'est pas du bitcoin papier, c'est des vrais bitcoins que vous avez derrière. Et effectivement, on peut les retirer sur sa ledger, pour ceux qui connaissent, si on veut vraiment s'en assurer.
Ouais, c'est important que tu le dises. On va pas… Enfin, voilà, on va pas… C'est important de dire que ce n'est pas sur toutes les plateformes qu'il y a réellement un Bitcoin derrière. Chez nous, s'il y a un Bitcoin, on détient un Bitcoin. C'est important, c'est vrai que c'est important quand même de démocratiser le concept, parce que c'est un peu un truc nouveau par rapport au Bitcoin. Si on achète un Bitcoin chez Bitsac, on peut le récupérer derrière. Il suffit de l'envoyer et de voir ce que ça donne sur le réseau Bitcoin. Mais en gros, tu récupères un Bitcoin sur ton adresse.
Et je suis allé du coup faire sur votre appli faire un petit peu la simulation que tu disais. Ouais. Donc effectivement, vous avez un petit simulateur. Si j'avais mis 20 euros chaque semaine depuis 5 ans, j'aurais épargné donc 5 220. Mais avec la valorisation de Bitcoin, au jour actuel, on serait à l'heure actuelle à 22 000 euros grâce à ce prix lissé pour donner une idée. Donc forcément, ça dépend du moment où vous allez rentrer, de combien et tout. Ça vous l'avez bien compris, mais pour effectivement avoir une idée de la puissance combinée de ce dont on parle depuis tout à l'heure.
Et malgré la chute, chute récente. Donc tu vois, enfin non, mais c'est important de le dire, parce que du coup, on peut se dire, ouais, mais là, si j'avais utilisé Bitstack, oui, si on avait utilisé Bitstack ou mis de l'argent sur le Bitcoin sur la dernière semaine, bah, on est sur une tendance baissière. Mais comme tu dis, malgré la volatilité, si on le fait sur 3 ans, de l'épargne continue avec le DCA, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur de l'épargne responsable, et là, on a une réelle valeur ajoutée. Donc, c'est là que c'est intéressant.
Alors là, j'avais mis le simulateur sur 5, mais effectivement, c'est la,
ouais,
c'est
sur
la même
ans,
puissance.
ouais.
Parce qu'effectivement, on enregistre le podcast autour de 30 000 dollars sur Bitcoin. Donc forcément, ça aurait été plus ou moins important en fonction du prix. Et celui qui, pour l'importance du DCA, aurait mis un seul billet au fameux pic où des fois, on nous dit Bitcoin était à 69 000 dollars il y a quelques mois et aujourd'hui, il a divisé par deux. Bah, effectivement, forcément, cette version-là aurait été divisée par deux, lissée sur 5 ans. C'est ce résultat-là. Et c'est justement la force des deux choses que vous précisez là. Sur la roadmap peut-être de Bitstack, puisqu'on a vu les différentes verticales et les différents produits que vous proposez, et qu'est-ce que vous allez prévoir de nouveau ou qu'est-ce que vous allez nous réserver en plus de ce que tu as déjà annoncé et en plus des options que tu as déjà évoquées aussi avec cette levée de fonds.
Le premier objectif pour nous, c'était l'épargne. Donc, en fait, le point d'entrée, c'est-à-dire même pas l'épargne et le support d'épargne, mais la méthodologie d'épargne. Donc, on a parlé de l'arrondi, on a parlé du récurrent. Donc là, c'est un sujet qu'on va continuer de pousser, de dire comment est-ce qu'on peut permettre à différentes personnes d'épargner à son rythme. Et c'est ça qui est important, c'est l'arrondi, c'est une façon qui est un peu de fait personnalisée parce que c'est directement corrélé à ton quotidien, quoi, à ton niveau de dépense. Le récurrent te permet de personnaliser un peu de manière un peu simple, on va dire, mais pourquoi pas potentiellement avoir d'autres façons d'épargner qui peuvent être adossées à différents styles de vie ou différentes, tu vois, méthodologies d'épargne. Donc ça, c'est un sujet qu'on va continuer de pousser, c'est le premier sujet qu'on a attaqué. Ce qui est assez fort, c'est que nous, on se pose tout le temps la question chez Bitstack de se dire comment est-ce qu'on peut exposer encore plus de personnes au Bitcoin. Et je vais laisser avec un petit clin d'œil parce qu'on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails, mais il n'y a pas plus. Avec l'arrondi, on pourrait se dire, ou le récurrent, OK, il faut quand même que je convertisse des euros en Bitcoin. Donc on s'est dit, OK, c'est quoi la prochaine étape? Pourquoi pas, qui dirait non si le Bitcoin il est gratuit, quoi, si on te le donne. Donc potentiellement, on regarde tout ce qui est solution de cashback, c'est un peu le sujet. C'est des produits et des services qu'on retrouve dans la finance. Enfin voilà, il y a plein de solutions aujourd'hui qui font du cashback. C'était pas très connu en France, hein, pour la petite info, il y a quelques années et encore pas très aujourd'hui, mais de plus en plus. Pourquoi pas du cashback en Bitcoin, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être un peu vague, mais ça donne une idée en fait des questions qu'on se pose chez Bitstack. C'est-à-dire qu'il y a plein aujourd'hui de produits et de services financiers qu'on retrouve dans le système traditionnel, que ce soit des produits d'épargne, des prêts bancaires ou des emprunts, des solutions de paiement, etc. Et rapporter tout ça dans le monde de Bitcoin, dans l'écosystème de Bitcoin, c'est un sujet qu'on trouve ultra intéressant. Donc en fait, on est en train de développer une suite de services et de produits financiers. Tu vois, on parlait de l'épargne, du cashback, pourquoi pas d'autres choses qui vont tourner autour du Bitcoin et en fait essayer de permettre à un maximum de personnes de tirer valeur de toutes les caractéristiques uniques finalement du Bitcoin, que ce soit côté paiement, côté réserve de valeur, épargne, protection de l'épargne ou autre.
Vous n'allez pas vous arrêter là pour essayer de faire grossir ce 8% des Français qui détiennent des crypto-monnaies, c'est passionnant. Et justement, pour finir sur la présentation de Bitstack, peut-être quelques mots aussi sur la politique des frais sur la plateforme.
Ouais, la petite particularité, en ce moment, en tout cas, ça fait un peu le sales pitch, mais en tout cas, il y a 0% de frais durant toute la période de la bêta. Du coup, pour la petite parenthèse, pourquoi on fait ça? Parce que nous, aujourd'hui, on est en bêta et en fait, on veut avoir un maximum de retours sur l'expérience. Nous, on est très, très, on se concentre vachement sur le produit. On veut créer la meilleure expérience possible. Donc, c'est un peu le contrepartie. C'est donnez-nous vos retours utilisateurs, votre feedback qui est hyper, ultra important pour notre équipe. Et pour l'instant, il y a 0% de frais. Notre objectif, c'est bien évidemment de fournir les frais les plus faibles. Rien n'est gratuit, comme on le sait. Donc, il faut à la fois être aussi transparent sur les frais. Donc, à la sortie officielle de l'app, sur les App Store, qui est d'ailleurs prévu pour courant de cet été, on va facturer 1,99% sur tous les ordres d'achat et de vente. Donc, pour que ça soit encore plus concret pour les gens, si on achète 100 euros de Bitcoin, on paye 1,99 € de frais. Voilà. Donc, ça, c'est les frais aujourd'hui de 0% sur la bêta et 1,99% le jour de la sortie officielle de l'app.
Et ceux qui veulent justement d'ores et déjà aller regarder un petit peu l'application, c'est sur votre site web, du coup, bitstack-app.com, que je mettrai bien évidemment en description. Et c'est déjà accessible pour le coup. Est-ce qu'il y a de l'affiliation si des gens veulent partager l'application?
Ouais, aujourd'hui, on a un programme de parrainage qui est en cours. Il évolue. Donc, on a des offres. Voilà, là, on a une offre en cours en ce moment. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur où elle risque de changer. Enfin, à voir. Mais aujourd'hui, on a une offre qui est en cours. Aujourd'hui, c'est 5 euros pour le parrainé, 5 euros pour le parrain. Donc, c'est 10 euros offerts en fait pour un parrainage. Attention à bien lire les conditions, puisqu'il y a, parce que souvent, je préfère le préciser, il y a plein d'offres, mais en fait, il y a toujours des conditions. Là, les conditions pour les récapituler, c'est déjà de bien utiliser un lien de parrainage. C'est la première étape. Ensuite, de créer un compte avec la même adresse email, bien évidemment, de vérifier son identité. Il faut que le compte Bitstack soit validé. Et si je ne me trompe pas, il faut faire 10 euros de Bitcoin, 10 euros d'achat de Bitcoin du parrain et du parrainé. Je crois qu'il y a une limite de 3 parrainages par jour, mais en tout cas, je les invite à tout le monde à checker. Mais il y a une offre en ce moment. Peut-être que ça peut changer. Ouais.
Ouais, bien sûr, je mettrai tout ça en description. Déjà sur celle qui est en cours aujourd'hui et celle qui pourrait arriver demain si elle évolue. Merci beaucoup en tout cas, Alexandre, d'avoir expliqué, de nous avoir fait cet état des lieux de la puissance de Bitcoin combinée à votre solution du coup, qui apporte ce côté indolore. Et je mettrai en description les sources qu'on a pu évoquer ici sur le nombre de Français qui épargnent, un petit peu dans quelle direction va cette épargne, et puis surtout tous les liens de Bitstack, bien évidemment, pour qu'on puisse essayer cette solution que j'essaye et qu'on essaye beaucoup à Cryptost depuis quelques temps. Et on espère que ces Satoshi seront précieux, mais on en est persuadé, bien évidemment. Merci beaucoup, Alexandre.
Bah, top. Merci à toi, Valentin. Avec plaisir.